CQFD.
Ça bouge en paléontologie grâce à une étude qui émane des universités de Lausanne et de Oxford au Macamis.
Oui, c'est une étude parue il y a quelques jours dans la série Perspective de la revue PNAS. Je vais y arriver. Les paléontologues admettent en général que tous les groupes d'animaux majeurs, les mollusques, les insectes, les premiers tout petits poissons, pour ne citer qu'eux, sont apparus au Cambrien, soit entre 540 et 500 millions d'années. C'est une période d'un million d'années connue sous le nom d'explosion cambrienne. D'autres chercheurs, en revanche, pensent que cela aurait pris 100 millions d'années. Donc, ça aurait commencé au pré-cambrien et ça se serait terminé durant le cambrien.
Donc, deux hypothèses qui s'affrontent
et qui vont peut-être être réconciliées grâce à des chercheurs de Lausanne qui ont analysé une masse impressionnante de données fossiles et qui arrivent à la conclusion que ce n'était peut-être pas une explosion, même pas non plus un processus très lent, mais quelque chose qui aurait duré 30-40 millions d'années.
Une explosion donc moins rapide qui aurait quand même eu lieu, puisque nous sommes là pour en parler. Et pour nous expliquer tout cela, Alison Derry, bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
On est très content de vous accueillir. Vous êtes professeur à la faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne, co-auteur de cette étude. Alors pour commencer, pourquoi cette période cambrienne est-elle importante dans l'apparition des animaux sur Terre?
Oui, la Cambrian Explosion, c'est un des plus majeurs événements dans l'histoire de la vie. Avant cette période de temps, on a les milliards d'années avec seulement les bactéries, les algues, les choses microscopiques. Et puis, très soudainement, on voit les communautés très complexes des animaux qui apparaissent dans le registre fossile. Alors, une grande diversité des choses macroscopiques, ça veut dire qu'on peut voir avec les yeux, pas besoin des microscopes. Et c'est vraiment la première fois qu'on voit les organismes si grands et si complexes dans l'histoire de la vie.
Et vous êtes intéressé aux arthropodes. Alors, vous nous rappelez juste ce que sont les arthropodes?
Oui, les arthropodes, aujourd'hui, c'est les animaux avec un exosquelette et les membres avec les joints dedans.
Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui?
On a les insectes, les araignées, bien sûr.
Les crabes,
tous les crustaceans.
Les crevettes,
bien sûr. Alors, il y a les unes qui sont très bons à manger et les unes effrayants comme les araignées aussi. Tout ce grand groupe des animaux.
Alors, pourquoi est-ce que les arthropodes sont si particulièrement intéressants?
Aujourd'hui et même dans toute l'histoire de la vie, ils étaient les plus divers et les plus abondants sur la Terre de tous les groupes des animaux. Alors plus de 80% des animaux sont les arthropodes aujourd'hui et même dans le Cambrien aussi.
Donc une grande diversité. Et alors, quand est-ce qu'on voit ces premiers fossiles d'arthropodes?
Oui, on commence à voir pendant la Cambrian explosion même les premiers arthropodes. Ils sont préservés dans plusieurs différents types de fossiles. Alors, on voit les exosquelettes durs préservés, on voit les microfossiles très petits et aussi les macrofossiles très grands. Mais on voit particulièrement dans la Cambrienne les fossiles avec les parties molles qui sont préservées. Alors, on voit les yeux, on voit les organes internes comme l'estomac, le dernier repas dans l'estomac aussi. Alors, préservation formidable de ces arthropodes d'une grande diversité de différents types de fossiles.
Et justement, vous avez étudié ces fossiles. Que vous ont-ils révélé?
Alors, dans notre étude, moi et mes trois co-auteurs, nous avons combiné beaucoup de l'information de tout le registre fossile qui appartient aux arthropodes. Alors, les traces comme les empreintes jusqu'à le complexe anatomé avec les parties molles préservées. Avec toutes les données ensemble, on a fait une reconstruction de leur évolution dans le Cambrien. Et ça a suggéré que c'est pas un événement de 100 millions d'années, mais c'est pas un événement de 1 million d'années aussi. C'est
ni l'un, c'est ni l'autre.
Oui, les deux hypothèses, ça marche pas pour les arthropodes quand on a regardé toutes les données ensemble. Alors, ça suggère une troisième hypothèse pour ce groupe.
Et donc, ce processus d'évolution d'arthropodes aurait pris combien de temps?
Alors, dans notre étude, on a suggéré que l'origine, c'est pas plus ancienne que 550 millions d'années et ça prend environ 30 millions d'années. pour l'évolution de tout ce groupe, dès leurs ancêtres qui regardent un peu comme un ver, jusqu'à une crustace qui regarde presque exactement comme quelque chose aujourd'hui. C'est un événement de 30 millions d'années.
Ça veut dire que dans vos fossiles, enfin les fossiles vous avez observé, vous pouvez suivre cette évolution sur cette période.
Oui, exactement. On a chaque étape avec ces fossiles préservés extraordinairement bons, les parties molles. Alors, on peut voir chaque étape, l'ajout de les jambes, l'ajout de exosquelette, les structures de la tête, pas, on voit ce évolution. C'est vraiment les fossiles de transition.
Alors évidemment, c'est des périodes, on dit un million d'années, ça nous paraît déjà énorme, 100 millions d'années, puis là on est entre les deux. Donc qu'est-ce que ça change finalement dans la perception de la vie sur Terre? Qu'est-ce que ça change dans notre compréhension de l'apparition de la vie sur Terre?
Ça change vraiment un peu comment on voit les processus d'évolution dans les événements majeurs comme ça. Et ça nous donne une façon de communiquer un peu mieux sur les autres façons d'évolution. Alors, horloges moléculaires, etc. On peut parler un peu mieux avec notre collègue biologiste développemental, etc., etc. Alors, ça aide nous à comprendre mieux l'évolution.
Cécile?
Oui, comment vous expliquez qu'il y en a autant? Vous avez dit 80% de la biodiversité, c'est des arthropodes, c'est parce qu'ils inventent plein de choses très vite?
Oui, c'est ça. Alors, ils ont une anatomie qui fonctionne très bien dans un divers environnement. Ils sont très bien adaptés pour survivre sur la terre, dans la mer.
Ils testent toutes les possibilités.
Exactement ça.
Ils sont créatifs. Alors pourquoi les théories qui ont précédé votre étude ont cru d'une part à une explosion, qui c'est pas très intuitif d'imaginer une explosion comme ça sur un million d'années, soit au contraire sur un développement très lent. Pourquoi ils se sont trompés ces gens?
Ça vient de les différentes données. J'ai mentionné les horloges moléculaires qui utilisaient le DNA de les arthropodes modernes pour suggérer quand ils sont évolués. Alors, c'est utiliser les choses comme les horloges moléculaires qui suggèrent que l'évolution prend un très long temps. Alors, ils devraient être origine 650. Millions d'années.
Même si on n'avait trouvé aucun fossile, on se disait
exactement
okay,
ça. Alors, on a une énorme période de temps où on ne trouve pas les fossiles, mais les biologistes suggèrent qu'ils devraient être là. Mais on regarde les roches dans cette période de temps, ils sont magnifiques, préservés, et on ne voit aucun arthropode. Et ça, c'est un autre focus de notre étude, que le précambrien, vraiment aucune chose qui regarde comme un arthropode, même quand les roches et les préservations, c'est exactement le même que dans le cambrien, où on trouve beaucoup des arthropodes.
Alors, vous parliez justement de fossiles exceptionnellement bien préservés. Comment ça se fait qu'ils ont été préservés aussi bien? Qu'est-ce qui a joué en leur faveur, on va dire?
Dans cette période de temps, on a les caractéristiques particulières dans les océans qui donnent l'habilité de préserver ces parties molles dans les roches, dans les minéraux. On a aussi, parce que c'est le commencement des animaux, on n'a pas une grande diversité des formes qui dérangent les sédiments sur le fond de mer. Alors, c'est les animaux aujourd'hui, lui-même, qui arrêtent la préservation des parties molles. Ils mangent les choses qui sont décédées. Ils allaient dans le sédiment, déranger tout le sédiment. Alors, c'est vraiment les animaux lui-même qui arrêtent cette préservation aujourd'hui. Et au commencement de leur évolution, ils n'ont pas évolué l'habilité de faire exactement la même écologie.
Et quand vous dites qu'ils sont si bien préservés, vous parlez des derniers repas pris avant leur mort, est-ce qu'on pourrait imaginer prélever leur ADN et les cloner, par exemple?
Malheureusement pas. Alors l'ADN, ça n'existe pas plus de quelques milliers d'années et tous les matériels biologiques sont remplacés avec les minéraux et les roches. Alors malheureusement pas, on ne fait pas le cloning de ces arthropodes bizarres.
Cécile?
Et est-ce qu'on peut trouver des fossiles facilement d'arthropodes avec ce qu'ils ont encore mangé si je vais me promener dans les rochers
Où est-ce qu'on trouve ça?
Malheureusement pas en Suisse. Plusieurs localités, les montagnes rocheuses du Canada, c'est le Burgess Shale ou les schistes de Burgess, c'est un endroit très fameux pour ces fossiles, mais on trouve aussi en Chine, Australie, la Russie, l'Espagne et d'autres pays en Europe, mais pas la Suisse malheureusement.
Et dans voyage.
Et dans votre étude, combien de fossiles à peu près ont été analysés, mis à contribution?
Entre nous quatre, on a analysé probablement plus que 100 000 fossiles pendant les dernières 10 années. Et chacun de ces fossiles nous a aidés à construire cette idée de l'hypothèse de l'évolution.
Et votre fossile préféré?
Ah oui. C'est un fossile qui s'appelle Anomalocaris. Ça regarde comme une très, très, très bizarre crevette. Et ça vient de la période
Cambrienne. Ah oui, on a une image là, oui.
Ah, c'est une image de la crevette bizarre.
Oui, c'est la
petite. Ah oui, elle nous a fait rire hier. Oui, c'est vrai qu'elle est assez marrante.
Oui. C'est le plus important prédateur pendant cette période de temps. Alors, c'est très féroce, très effrayant.
On va mettre ça en lien sur notre site, sur le site de CQFD.
Elle a des gros yeux comme ça, sur les côtés, en haut de la tête.
C'est marrant. Ce qui est étonnant, Alison Daly, c'est que finalement on se rend compte que cette erreur, comme ça, cette explosion de d'espèces vivantes, elle a aussi existé pour les plantes à fleurs. Si on se rappelle bien, Darwin parlait de l'effroyable mystère pour les plantes à fleurs. Donc on avait aussi ce même problème pour les plantes à fleurs. On a cru qu'elles étaient arrivées comme ça d'un coup, et puis on s'est rendu compte ensuite qu'elles sont arrivées progressivement.
Oui, exactement. C'est similaire. On a ces énormes changements dans l'évolution, et Darwin, dans ce période de temps, pas beaucoup de fossiles pour examiner ça. Mm-hmm. Alors, pendant les années après Darwin, on a trouvé les fossiles de transition. On a fait ça pour les arthropodes, les paléobotanistes font ça pour les plantes à fleurs aussi. Et on a vraiment une très bonne idée comment les étapes d'évolution ont arrivé pour ces deux groupes.
Que Darwin avait raison et qu'il n'avait pas pu le savoir, il n'avait pas pu en avoir la preuve de son vivant. Oui. Merci beaucoup, en tous les cas, Alison Daly, d'être venue ce matin faire votre première radio en français. Mm-hmm. Alors là,
oui,
chapeau,
bravo. C'est déjà...
Professeur à la faculté des géosciences de l'environnement de l'Université de Lausanne. Merci de vous être déplacé.
CQFD sur la première.